marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Arrêtons-nous ici pour réfléchir en paix.
Olivier Abel, la civilisation européenne ?
Avant d'être un continent, l'Europe, eh bien, c'est un personnage de la mythologie. C'est une princesse phénicienne, princesse de la ville de Tyr, située aujourd'hui au Liban, qui est très belle et qui, une fois de plus, est victime de la lubricité de Zeus. Vous savez que Zeus, c'est un dieu qui a beaucoup de crushs et qui court après, homme ou femme, mortel ou immortel. Donc là, pour approcher Europe, Zeus décide de se changer en un très beau taureau blanc, et puis il se mélange au troupeau du père d'Europe, commence à jouer avec, et elle finit par grimper sur son dos.
Dans les récits grecs, l'histoire d'Europe ne commence pas dans la tranquillité, mais bien dans une violence qui en appelle une autre. Si les Grecs, Zeus en l'occurrence, enlèvent Europe, princesse phénicienne, c'est à la suite du rapt de Io, la fille du roi grec d'Argos, par les Phéniciens. On ne dira jamais assez la dangerosité de l'Europe dès le départ. Le commencement donc est un enlèvement. Ensuite, Europe, si elle est prise de vertige en chevauchant Zeus transformé en taureau, participe à l'aventure. Elle s'accroche au cou du taureau. Elle ne sait pas où elle va, mais qui sait où il va ? Cromwell disait qu'un homme n'allait jamais aussi loin que lorsqu'il ne savait pas où il allait. Alors a fortiori, une femme, la détermination des femmes dans leur choix, singularise l'Europe. Au commencement, il y avait aussi une métamorphose. On est aujourd'hui tenté de penser qu'il faut en opérer une autre. Beaucoup pensent même que soit l'Europe change, soit l'Europe meurt.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Olivier Abel, bonjour.
Bonjour.
Alors, disciple et ami de Paul Ricoeur, vous avez longtemps animé à Paris, boulevard Arago, le fond. Paul Ricoeur, un centre de réflexion, d'émulation. Vous avez déjà publié, il y a pas mal de temps, juste après la chute du mur, un livre sur l'Europe.
Oui, c'était un de mes tout premiers livres, juste au moment de la chute du mur, voilà, c'est ça.
Issu d'un cours.
Issu d'un cours, également.
On va pas dire quel type d'étudiant vous avez, enfin on le dira au fil de l'émission, parce que je ne veux pas vous handicaper dès le départ. Et puis ensuite, à Montpellier, les premiers cours c'était à Paris, de nouveau un cours sur l'Europe, dont sont issus les deux livres dont nous allons parler.
Voilà, 30 ans plus tard.
Ouais. Un livre d'entretien avec Jean Matouc, La Fenestrelle. Ça sent le Gard, parce que vous habitez à Nîmes maintenant. Et puis, illustré par le tableau de Valoton, L'Enlèvement d'Europe, Le Vertige d'Europe, ça c'est aux éditions Labor et Fides. Qu'est-ce qu'il faut que je dise encore de vous ? C'est que vous êtes un conférencier très demandé, assez généreux.
C'est gentil, oui, c'est vrai.
C'est-à-dire pas des conférences très rémunératrices,
non,
des conférences
artisanales
dans des milieux divers.
Voilà.
Et de jour en presque tous les jours.
Bon, peut-être pas tous les jours, mais souvent. Et voilà, le contact avec la parole des autres.
Le contact avec la parole des autres. Vous avez une conviction que vous exprimez plus d'une fois. Bon, la civilisation européenne, l'espace de la civilisation européenne, ça dépasse celui de l'Union européenne.
Et oui, bien sûr. L'Europe, il faut vraiment remettre l'Europe sur le temps long. Sur le temps long, l'Europe vient de loin. Elle vient de nombreuses sources.
Et son espace va.
Son espace, est, voilà. Il est aussi divers selon quelle source on considère et quelle histoire on considère. Question d'échelle. Quelle est l'échelle, voilà.
Vous parlez d'une querelle qui a une certaine importance aujourd'hui, parce que les symboles, c'est primordial, celle autour du drapeau européen. Alors, on va la raconter avec des faits. Vous vous intéressez aux faits en tant que philosophe.
Oui, je devrais.
Vous devriez. Bon, alors, on va vous apporter des précisions, Olivier Abel. Nous sommes en 1955. Il y avait bien un emblème pour le Conseil de l'Europe. Il était issu d'un mouvement européen. Et c'était un E au milieu du drapeau. Et Paul Reynaud disait, ça ressemble à un caleçon qui flotte au vent en haut d'un mât. Alors on cherche, selon les règles de l'héraldique, on se dit on pourrait mettre des cercles, mais ça fait cadran téléphonique. Il faut des couleurs adaptées. Alors le bleu, azur, c'est la souveraineté en héraldique. L'or, c'est la paix. Mais comment disposer tout ça ? Alors voici que la proposition est faite par le président en titre du Conseil des ministres du Conseil de l'Europe. Le Conseil de l'Europe, c'est pas le marché commun qui existe déjà, mais qui est beaucoup plus limité dans l'espace. Monsieur Cosgrave.
Jusqu'à présent, le Conseil de l'Europe n'avait pas de drapeau, et celui qui flottait sur la maison du Conseil de l'Europe à Strasbourg était tout simplement celui du mouvement européen, un grand E blanc sur un fond vert.
Nos délégués l'ont adopté en notre nom le 8 décembre dernier. Le Conseil de l'Europe est symbolisé dans cet emblème par un cercle fermé d'étoiles. Ces étoiles ne représentent ni des pays, ni des États, ni des races. Leur nombre demeurera invariable. 12 étoiles, c'est le symbole de la perfection et de la plénitude telle que devrait être l'union de nos peuples. Ce matin, le même drapeau monte au mât qui se trouve à Strasbourg devant la maison de l'Europe. Qu'il puisse battre longtemps et librement au vent et en paix avec les bénédictions du Seigneur.
Je ne sais pas si vous avez noté la dernière phrase, avec la bénédiction du Seigneur. Ouais. C'est un ministre irlandais sans accent, mais nécessairement catholique en 1955, qui parle. Et qui parle le 8 décembre. 8 décembre, fête de l'Immaculée Conception de la Vierge. Deux preuves de plus que ce drapeau européen, c'est bien évidemment un symbole qui n'est pas laïque, qui est chrétien, ainsi que ne le cesse de répéter, avec Régis Debray, Jean-Luc Mélenchon.
Il n'est jamais dérisoire de débattre de symboles, puisqu'au fond, ils finissent par représenter ce que nous sommes. Si nous voulons que les peuples se rapprochent, il faut leur en donner les moyens matériels et symboliques. C'est la raison pour laquelle notre argument contre ce drapeau est son caractère et son origine confessionnelle, que nous ne confondrons pas avec celui de la patrie, qui, certes, au début n'est pas plus clair qu'un autre drapeau, mais que l'histoire a chargé, que la Marseillaise a chargé, que les victoires et les défaites ont chargé d'un sens ineffaçable pour toujours.
Alors, juste une ou deux précisions avant que vous ne réinterprétiez à votre façon le symbole, Olivier Abel. C'est le drapeau du Conseil de l'Europe, aussi bien que de l'Union. Le Conseil de l'Europe, c'est 47 membres. Et il faut quand même savoir qu'au moment de la conception du drapeau, la proposition de la croix avait été faite et refusée par plusieurs membres du Conseil de l'Europe, dont la Turquie. Mmh. Alors, le commentaire du philosophe, une fois les faits établis.
Bon, donc ça donnerait complètement raison à Régis Debray, entre autres, dans cette interprétation de l'Europe comme voie romaine, on va dire, ce côté catholique, l'idée d'une couleur mariale, on va dire, de la robe de la Vierge, les étoiles. Il commence ça à travers l'Apocalypse, la figure de la... Bon. Non, mon interprétation, on peut dire justement, le propre d'un vrai symbole, c'est d'ouvrir un conflit d'interprétation et d'installer durablement un conflit d'interprétation. Et moi, je vois plutôt dans ce cercle d'étoiles la figure, je dirais, développée d'ailleurs par Claude Lefort, l'idée d'un vide central avec une équidistance des figures
équidistantes,
à équidistance de ce centre qui doit rester vide et qui est justement en ce sens-là vraiment le symbole de la démocratie. Avec l'idée d'ailleurs qu'avait repéré Marcel Hénaff, le regretté Marcel Hénaff, que dans la haute antiquité européenne, si on peut dire, très très ancienne, au moment du néolithique, il y avait toutes ces pierres dressées qui formaient des cercles et qui semblent avoir été utilisées comme des lieux de rassemblement où on pouvait venir de partout facilement pour se mettre dans le cercle et qu'on pouvait aussi quitter rapidement parce que c'était juste des pierres dressées en cercle autour de ce centre vide. J'aime beaucoup cette figure, c'est une figure grecque bien sûr, c'est une figure parce que c'est pas seulement la figure du centre vide, c'est aussi la figure de la pluralité. De la pluralité, tout à l'heure je parlais de la pluralité des sources de l'Europe, il me semble, voilà, l'idée qu'il y a que les appartenances européennes sont multiples, on y vient pour des raisons multiples et qui sont à équidistance et qui, voilà, installent cette discussion, ce débat, qui ouvre ce débat.
Alors ça, c'est très grec. J'essaye de faire comme vous et de faire des citations. Lévinas disait l'Europe, c'est la Bible. Et les Grecs qui disent grec pensent aussitôt à l'enseignement de Socrate tel que restitué dans le film de Rossellini.
Arrêtons-nous ici pour réfléchir en paix. En parlant de ceux qui gouvernent par la torture, pourquoi as-tu employé le terme de folie?
En vérité, les puissants ont la force. Ils l'exercent parce qu'en eux-mêmes, ils se sentent faibles. Et leur faiblesse vient de cette peur qui les domine. Ils se voient partout et toujours entourés d'ennemis. N'est-ce pas là le propre de la folie? Et rassurez-vous, elle n'est pas cachée.
Un tyran peut réduire la cité à son bon plaisir.
À ce qui lui plaît, sans doute, pas à ce qu'il veut. L'homme, en effet, ne peut vouloir que son propre bien. Et celui qui commet l'injustice porte avant tout atteinte à sa propre personne. Peu à peu, le souvenir du mal qu'il a commis le rendra fou.
Socrate, la vertu est donc la connaissance de son propre bien.
La connaissance et la pratique.
Et donc, pour administrer la cité, sans lui-même en subir de dommages, le puissant doit pratiquer la vertu.
Oui, car s'il est un homme valeureux, il servira d'exemple. Pour survivre, les cités n'ont pas besoin d'arsenaux ou d'empires. Si elles ont la valeur, si elles ont la vertu, leurs citoyens donneront leur vie pour les défendre.
C'est un film, cette œuvre de Rossellini. On imagine d'ailleurs le dialogue socratique, un petit peu disposé comme le drapeau européen, avec équidistance, des interlocuteurs.
Voilà. Et ce qui me semble important chez Socrate, c'est que Socrate se décentre pour placer au centre du cercle le pouvoir de questionner, le pouvoir d'interroger. Ce qui est au cœur, et c'est pas justement celui qui tient le sceptre et de la parole et qui le garde, mais c'est celui qui le redépose aux maisons, c'est-à-dire au centre, comme pouvoir partager, de questionner, pouvoir d'interroger.
Alors je reprends la citation de Lévinas à l'envers, Socrate et Jésus.
Socrate et Jésus, mais la Bible c'est beaucoup plus que Jésus, c'est beaucoup plus ample, c'est beaucoup plus pluriel. La Bible elle-même est un livre de livres, un livre de, composé de toutes sortes de livres très différents. La Bible elle-même, pour moi, est un magnifique symbole de l'idée qu'il y a des textes extrêmement divers, des genres littéraires même extrêmement divers, qui ont été canonisés ensemble, qu'on en a tenu ensemble, qu'on en a mis ensemble. Et ce geste, c'est voilà quelque chose que je voudrais retrouver d'une certaine manière avec Socrate, Jésus. Il me semble que le cœur de la civilisation européenne, dès le départ, c'est une tension. Il n'y a pas une source, il n'y a pas une parole, il n'y a pas une tradition, il y en a plusieurs qui s'entrelacent, qui se corrigent mutuellement, qui se réinterprètent mutuellement. Et d'ailleurs, c'est un cercle inachevé. Les traditions n'ont cessé de se constituer autour. Même les Lumières sont devenues une tradition parmi d'autres. Il faut refaire sans cercle le cercle et réouvrir le cercle. C'est pas fini.
Vous dites Socrate, Jésus, la très haute antiquité, Rome.
Alors voilà. Rome. Bien sûr, bien sûr. On insiste beaucoup sur la Grèce. On vient d'en parler. Et l'origine, la Bible. Bon. Mais Rome, c'est très important, bien sûr. Rome, c'est aussi la Méditerranée, hein. C'est aussi. Mais Rome, nous nous sommes appropriés Rome. Mais Rome, c'est aussi le monde de l'Europe orientale, hein, avec Byzance, avec Constantinople, avec l'Empire byzantin, dans lesquels les Ottomans reprennent une grande partie, les structures de l'Empire romain, de l'administration romaine, même du droit de Justinien, le Canoni Sultan Suleiman reprend aussi le droit canon. Donc voilà, l'histoire romaine est inachevée. Mais il y a l'imaginaire romain, l'imaginaire grec est un imaginaire beaucoup plus en archipel. Et je pense qu'en ce sens-là, ce qui fait que les Grecs sont très importants dans l'imaginaire de la civilisation européenne, c'est cette idée d'archipel. Et qui fait que, comme le disait Paul Valéry, l'Europe est un cap sur lequel sont venus s'accumuler des peuples différents, des traditions différentes. Jacques Derrida reprenait cette idée que justement dans l'identité européenne, il y a de l'altérité dès le départ.
Et aucune tradition ne réussit à faire taire les autres.
Voilà.
Et de quelle tradition venez-vous, vous ? Parce qu'on ne l'a pas dit, c'est qui vos étudiants ?
Bon, mes étudiants sont des étudiants en théologie, protestantes.
Ah.
Moi je suis un philosophe, j'ai enseigné d'éducation nationale, j'ai enseigné au Tchad, j'ai enseigné à Istanbul, c'est là d'ailleurs sur la frontière, si je peux dire, que j'ai senti que j'étais sur une limite. Est-ce que c'est dedans, est-ce que c'est dehors? Et c'est là que l'interrogation, on veut dire, que j'ai senti que j'étais européen. Ceux qui ne sont pas sortis de l'Europe ne sentent pas qu'ils sont européens.
Et mais d'une certaine manière, vous n'écrasez pas le passé chrétien, non plus que les autres, parce que souvent, les passés sont caricaturés. Oui. Tout de même, je voudrais que vous racontiez cette anecdote.
Oui.
Bon, vous dites toujours la même chose, quels que soient les auditoires.
Exactement, oui.
Et quelqu'un des médias, de la télé, vous dit un jour...
Mais quelqu'un qui me téléphone me dit, ouais, monsieur Abel, on aime beaucoup ce que vous faites, mais est-ce que vous auriez pas, vous ne seriez pas quelqu'un qui pourrait dire la même chose que vous, mais qui ne serait pas professeur dans une faculté de théologie? Même si vous êtes professeur de philosophie, vous êtes dans une faculté de théologie, donc ça vous disqualifie pour rentrer dans l'espace public. Il faut garder ça un peu en privé, en quelque sorte.
Alors, vous dites, parmi les singularités de la civilisation européenne, il faut parler de la spécificité de l'invention, de l'innovation que représente le couple européen, où parfois l'homme s'en va. Ça, c'est une chanson un peu surréaliste des VRP.
Ce soir, je pars. Ce soir, c'est le grand départ. J'aurais pu te dire au revoir quand tu m'as porté mon dîner. Mais rien, j'ai tout gardé en moi. Et ce soir, dans la gare, je pars. Prendre l'avion, prendre le train, prendre un bateau ou bien ta main. Mais partir. Ce soir j'ai décidé de partir, de quitter ma maison, mes souvenirs, pour ailleurs. Je pars. Je pars. Je vais partir.
Oui, mais pour Olivier Abel, le moment intéressant dans la civilisation européenne, c'est quand Madame Adelman, nous sommes dans un film de Nicolas Bedos, quitte. C'est la femme qui quitte, monsieur Adelman.
Mais je vais crever sans toi. Fais pas ça, je t'en supplie.
Je suis désolée.
Je vais changer. Je le jure, je vais changer, je te jure.
C'est vraiment trop tard. J'ai fait tout ce que je pouvais, tu le sais.
Mais je vais crever sans toi, Sarah.
Mais non, tu vas pas crever.
Allez, viens à la maison. Sarah, tu es ma femme, on rentre à la maison. Allez, viens.
Non.
Allez, viens. Bon, bah, je vais y aller.
Et retournement, 5 ans après.
Ah bah, t'avais fait tes valises et tout ça, en fait. Tu savais que j'allais te reprendre.
C'est moi qui te reprends. Tiens.
C'est quoi?
Une lettre. C'est Lina.
Je sous-signais Victor Adelman de Richemont. Jure ne jamais faire le reproche à ma femme d'avoir été la femme d'un autre pendant 5 ans et demi. Ne jamais lui demander avec qui elle prenait davantage de plaisir dans un lit. Ne pas l'interroger contre son gré. Et consulter un psychiatre au moins 2 fois par semaine afin d'être en mesure de respecter le présent contrat.
Et maintenant tu signes.
J'ai acheté cette maison avec l'argent de mon divorce. Chloé s'est installée à Lyon afin de prolonger des études inutiles. Victor et moi étions enfin seuls. Il me faisait la cour comme si on venait de se rencontrer. Il était adorable, élégant, rassuré. C'était le bonheur total.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Et comme l'évidence vous en apparaît, nous sommes dans une émission consacrée à l'Europe après la publication de Vertige de l'Europe par Olivier Abel.
Oui, je pense que cette histoire de l'invention du couple moderne est un chapitre très important de l'histoire européenne. Calvin, on n'imagine pas ça, hein. Calvin à Genève dit que les femmes ont un droit égal au divorce, égal aux hommes.
C'est... Ça, il y a le théologien protestant qui a repris l'avantage.
C'est intéressant. Non, mais en fait, les puritains de la Révolution anglaise, c'est eux qui m'intéressent, notamment John Milton, qui écrit un traité du divorce en 1643. C'est vraiment cette idée, cette épopée de l'émancipation. C'est l'idée de partir. On a le droit de partir. On a le droit de quitter son église. On a le droit de quitter toute église, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment un thème des puritains. Là aussi, on n'imagine pas. On a le droit de quitter son roi, et même de lui couper la tête, ce qu'ils font. On a le droit de quitter sa femme ou son mari, etc. Donc, c'est parce que pour fonder une libre alliance, une véritable alliance, un vrai contrat, un vrai pacte politique, etc., libre, eh bien, il faut pouvoir se séparer. Et donc, C'est très important. Ça veut dire que, et c'est très important dans l'histoire de la, il faut que la femme puisse se refuser. C'est-à-dire, en fait, la chasteté n'est plus quelque chose qui se met à part dans les monastères, à vie, je dirais, avec des vœux indissolubles. Non, c'est quelque chose qu'on va pouvoir vivre au jour le jour dans le couple même. Et donc, il va créer un couple différent. Ça, c'est vraiment l'invention d'un couple différent. Et je pense que l'imaginaire du couple européen a joué un très grand rôle, je dirais, dans la conquête du monde par l'Europe, et que c'est très curieux, d'une certaine manière, combien aujourd'hui c'est une figure complètement effondrée de notre imaginaire européen, en fait.
Donc, figure conjugale, figure démocratique, confrontation.
C'est ça, possibilité de se séparer, c'est-à-dire, comment est-ce qu'on va rester ensemble alors qu'on pourrait se séparer? C'est aussi un thème de la démocratie.
Oui, mais alors, vous parlez de l'expansion de l'Europe dans le monde. Une des raisons de la difficulté de l'Europe, c'est évidemment son passé colonial. Alors je sais, vous allez dire, on caricature le passé colonial comme on caricature le passé religieux. Paul Ricoeur expliquait que la culture européenne est peut-être la seule qui ait assumé la tâche considérable de conjuguer de façon aussi constante la conviction et la critique. La conviction qui fallait s'étendre, et la critique selon laquelle l'extension était une catastrophe à terme.
C'est dû aussi à ce mélange, ça vient aussi de cette racine socratique, et donc interrogative, certainement. Oui, je pense que c'était un chapitre de Milan Kundera qui m'avait frappé, où il comparait Orwell et Kafka. Il disait qu'il détestait Orwell parce que Orwell, dans sa lutte anti-totalitaire, en construisait un imaginaire totalitaire. Bon, lui-même, 1984. Et que Kafka, dans le procès, quand Kafka rentre dans la salle du procès, hein, il se retourne à la porte et il voit une jeune fille en train d'étendre du linge ou en train de tirer de l'eau du puits, un homme pieds nus en train de lire le journal. Et que donc, dans l'univers terrible, absurde du procès de Kafka, il y a en même temps des choses heureuses. Et je pense que notre passé, nous avons notre présent est beaucoup trop puissant par rapport à notre passé. Nous avons un présent d'une capacité de remanier, de rewriter, reconfigurer le passé extrêmement avec l'industrie numérique, avec l'industrie de l'imaginaire. On est aujourd'hui dans une société dans laquelle il y a une industrie de l'imaginaire. Hitler l'avait déjà fait d'une certaine manière. On continue une capacité de réécrire le passé. Et je pense que voilà, que du coup, nous avons le passé ne nous résiste plus, et d'où ce sentiment de vide. L'Europe marche sur du vide parce qu'elle marche sur un passé qui est vide, qui a été vidé, qui a été évidé, je dirais même, d'une certaine manière.
Le noyau est vidé. Mmh. Cependant, je continue sur la question coloniale et la question migratoire qui, d'une certaine manière, lui est greffée et dont vous dites, comme beaucoup, qu'elle est au cœur de la difficulté de la civilisation européenne. L'Europe a prétendu occuper le monde, et le monde prétend aujourd'hui pouvoir s'installer chez elle.
Oui, c'est ce que disait Bruno Latour. C'était une observation très, très remarquable, très, très juste. Tiens, en fait, c'est l'idée d'hospitalité. L'idée d'hospitalité, elle est au cœur. Alors, Europe, c'est une hospitalité particulière, parce que c'est presque un rapt, sauf toute la question à savoir est-ce que ces filles sont consentantes ou pas. Enfin bon, c'est tout un débat. Mais oui, je pense que nous avons une conception du passé colonial qui est elle-même orwellisée d'une certaine manière. Nous ne voyons pas que d'un côté il y avait bien sûr des entreprises coloniales armées, militaires, entrepreneuriales, etc. Mais il y avait aussi, je dirais, nos proscrits, nos dissidents, nos rescapés, nos bannis d'une certaine manière
qui allaient aux colonies.
Voilà.
Les anciens des colonies nous viennent. Je voudrais qu'on ouvre juste un dossier parce que vous vous en occupez personnellement dans la bonne ville de Nîmes où vous habitez. Vous me disiez qu'il y a actuellement à Nîmes 800 mineurs étrangers
isolés.
Voilà, des systèmes sont mis au point actuellement dans 3 départements parce que ces mineurs isolés sont jusqu'à l'âge de la majorité à charge des seuls départements pour évaluer la minorité. C'est pas facile d'évaluer la minorité. Un reportage d'Antoine Chao à Paris dans un centre qui s'y consacre.
Alors là, on est devant le DEMI, hein, c'est ça, le dispositif d'évaluation des mineurs isolés, rue du Moulin Joly. Et c'est ici que vous devez passer le matin pour savoir si vous êtes pris en charge ou alors si ils refusent de vous prendre en charge, c'est ça?
Oui, c'est ça. Au DEMI, ici, c'est pas facile. Tu vas fouiller dans la rue de Paris. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à la rue. C'est pas facile.
Et vous avez été refusé?
Oui, bien sûr que j'étais refusé.
Parce qu'ils pensent que vous n'êtes pas mineur, c'est ça?
Ouais, d'après eux. Après. Moi, j'ai 16 ans.
Et du coup, là, vous êtes à la rue, alors?
Ouais, bien sûr.
Vous logez dans la rue?
Ouais, je loge dans la rue.
Mais ça fait combien de temps, maintenant, alors?
3 mois, comme ça. Commencement, je dormais dans un parc. Tu vois, je dormais dans un parc. Et à côté du parc, il y a un parking qui était là-bas. C'est un jour, il y a une sécurité là-bas. Le sécurité du parking, lui aussi, c'est un noir. Il est ivoirien comme moi. Donc, c'est lui, il s'est rapproché de nous. Il nous a dit, ah, on peut dormir au parking, mais sans faire du bêtise, du bruit. Je dors tranquillement, matin aussi, je sors, sans faire de bruit. Ouais.
16 ans, a-t-on compris, l'idée est venue dans 3 départements d'expérimenter un fichier national biométrique pour l'identification de la minorité. Et ce fichier pourrait peut-être, s'il devient national, être croisé avec les données biométriques actuellement recueillies aux frontières interafricaines par l'assistance française, par l'UE ou par l'Organisation internationale des migrations.
Mais ce que je trouve grave, c'est notre imaginaire, d'une certaine manière. Eux aussi, ils sont dans un imaginaire. Ils imaginent l'Europe, il y a une sorte de rêve. Ça, c'est lié à la mondialisation, à ces flux d'images, en quelque sorte. Mais ces flux d'images complètement imaginaires, j'avais reconstitué. Bon. Mais nous aussi, nous avons un imaginaire. Je pensais à Tsemel qui disait dans son très beau texte sur l'étranger, que l'étranger qui arrive, c'était l'école de Chicago, hein, que l'étranger qui arrive dans la ville, peut-être avec son petit baluchon, ce petit jeune étranger, peut-être que dans 30 ans, il sera le maire de la ville. Si nous pouvions changer d'image. Et c'est aussi les nouveaux venus. C'est-à-dire les nouveaux venus, ce sont ces jeunes rescapés, mais c'est aussi nos nouveaux-nés. C'est aussi des nouveaux venus. Et je pense que nous sommes de plus en plus dans un imaginaire de nouveaux venus qu'on va choisir. On va choisir de nos enfants, si je peux dire, que comment on maîtrise tout. Pareil, on veut maîtriser, on veut choisir. Et c'est ça que je trouve grave, parce qu'en fait, il y a des choses qui arrivent. Et je pense que c'est ça. Il faut que l'Europe se déprotège. Il faut qu'elle se déprotège, pas au sens qu'elle se déprotège aussi pour sentir les dangers, pour sentir ce qui lui arrive, pour faire face à ce qui lui arrive. C'est ça qui manque.
Et parce je pense qu'aujourd'hui, nous faisons le contraire. L'Europe est dangereuse.
Historiquement, l'Europe a toujours été dangereuse. Et aujourd'hui, elle est pas seulement tellement dangereuse par ses armes, par ses agressions, que par ses protections. L'Europe se protège, ne cesse de se protéger. Elle a une rangée de frontières. Elle sous-traite sa frontière à des puissances, à des États très autoritaires, justement la Turquie, le Maroc, l'Égypte, etc. Nous sommes cernés par un bourrelet de frontières extrêmement dur qui nous rend insensibles au reste du monde. Et donc, nous sommes en fait du coup otages. Nous sommes en fait les otages des gardiens de nos frontières. Et c'est ça qui est dangereux. Et donc, nous sommes en train de perdre notre souveraineté.
Merci à vous, Olivier Abel. Alors, je rappelle avec Jean Matou, à la fenestrelle, un dialogue sur la démocratie et l'Europe, et votre livre sous votre seule signature, Le vertige de l'Europe, l'abord est fidèle. Cette émission a été préparée par Frédéric Martin, Franck Olivard et Linka Negulesco, à la réalisation Audrey Ripouille, à la technique Loïc Frapsaud. C'est le programme, bah, comme tous les vendredis, cher Mathieu Vidard.
C'est chargé, c'est le club. On va parler d'archéologie, de Tour de France scientifique et d'un spectacle qui s'appelle Équation.